Alors bonjour et bienvenue dans Les Agités de la Classe. Les Agités de la Classe, c'est une émission pour parler de nos pratiques de classe avec Pascaline. Salut Pascaline.
Salut Fred, salut Seb.
Et avec Fred.
Salut Pascaline, salut Seb.
Alors Fred, tu nous lances le sommaire?
Oui, alors au sommaire de cette première émission, donc des Agités de la Classe, on va retrouver nos quatre rubriques. Tout d'abord, un quoi de neuf dans nos classes. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Ensuite, on passera au point qui tue avec, pour cette émission, on va parler de l'ambiance idéale, comment créer une ambiance idéale dans nos classes. Ensuite, on passera aux ressources des agités, où on vous présentera chacun une ressource qu'on utilise en cours. Et pour finir, on passera au point expérience, avec des choses que nous sommes en train d'essayer de mettre en place dans nos classes, ou que l'on va mettre prochainement en classe. Pour le premier point, Sébastien, quoi de neuf dans nos classes?
Alors, pas grand-chose, parce que là, pour l'instant, je suis en vacances, et j'ai juste terminé le trimestre, donc les classes vont recommencer bientôt. En revanche, ouais, ce quoi de neuf, c'était comme à chaque fin de trimestre pour nous, c'est la période des examens, et une petite mésaventure avec une apprenante qui a échoué, et qui était un peu surprise, parce que c'est vrai qu'elle avait beaucoup travaillé ce trimestre, mais bon, c'est vrai qu'elle a quelques petites lacunes, des choses à retravailler, donc je l'avais orienté, après avoir vu ses résultats, vers une classe de renforcement qu'on met en place. Et puis bon, elle m'a écrit un mail en disant qu'elle n'était pas contente du tout de ses résultats, qu'elle comprenait pas, qu'elle semblait avoir tout bien fait. Alors du coup, j'ai regardé la copie et il s'avère que elle avait raison, sa copie était plutôt au niveau. Donc là, c'est un peu de ma faute. Avant de lui répondre, j'aurais dû vérifier la correction de mon collègue, puisque c'est des collègues qui corrigent les copies de nos apprenants. On corrige pas soi-même ses apprenants. Et on a en fin de trimestre comme ça, on a toutes les copies, on est un peu fatigué. Des fois, l'évaluation c'est pas non plus une science exacte. Et bon, il a été un peu sévère. Peut-être qu'avant il y avait une copie qui était très forte et donc du coup il a comparé. Enfin, je sais pas. Et moi, j'ai pas relu et donc double erreur. Donc je lui ai écrit en disant que c'était bon, mais que je lui conseillais quand même le cours de renforcement et qu'elle pouvait du coup choisir soit passer au niveau supérieur, soit faire cet atelier. Mais j'ai pas de nouvelles depuis, donc je pense qu'elle elle boude un petit peu, elle est pas très satisfaite. Parce qu'évidemment, dans son mail, tu sais, il y avait après un peu de ressentiment en disant, ouais, on n'a pas assez travaillé ceci, on n'a pas assez travaillé cela. C'est naturel, je veux dire, qu'on n'est jamais, un échec, c'est jamais quelque chose d'agréable. Et donc, on essaie aussi de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Surtout que c'est vrai, elle avait rien à se reprocher. Pour le coup, elle avait fait tout le travail et tout ça. Mais ce que j'essayais de lui expliquer, c'était pour certaines personnes ou à certains moments de l'apprentissage, ça prend un peu plus de temps, que c'est pas forcément un échec, qu'elle avait beaucoup progressé pendant le trimestre, mais qu'il y avait encore du travail à faire. Donc voilà, une petite mésaventure de fin de trimestre, mais j'espère bien là à la rentrée pouvoir la voir et puis discuter un peu plus longuement avec elle plutôt que d'échanger par email. Ça vous est déjà arrivé des mésaventures comme ça?
Ben oui, justement, ça me faisait penser à quelque chose, qui m'est pas arrivé directement, mais dont plusieurs collègues m'ont parlé. Et ça se passe en Chine, ça se passe à Shanghai, ça se passe dans les universités, en fait. Ce sont des professeurs qui ont été un petit peu surpris par une approche de l'évaluation très très différente, puisqu'ils ont évalué les copies en fonction de leurs propres critères d'évaluation, et ils ont oublié le fait que les notes au-dessous de 12 n'étaient pas admises, en fait, tout simplement. Et donc, ce sont les étudiants qui se sont chargés de le leur rappeler et qui ont contacté l'administration pour dire que les professeurs avaient dû commettre une erreur en mettant des notes inférieures à 12, voilà. Donc, parfois, lorsqu'on va dans un pays différent, je pense qu'il est important aussi de s'informer du système d'évaluation en place parce qu'on peut être amené à certaines surprises.
Et oui, il faudrait qu'on se fasse un gros dossier un jour sur l'évaluation, mais c'est assez casse-tête. Hein.
Et j'allais demander moi aussi à Pascaline ce qui se passait de neuf dans ses classes.
Eh bien, alors j'avais envie de dire dans un premier temps pas grand-chose, puisque en ce moment je n'ai pas de classe, je prépare mon master de FLE dans le milieu entrepreneurial et scolaire, mais en fait, à bien y penser, il se passe des choses parce que je partage une colocation avec une étudiante allemande qui est de niveau B1, B2, à cheval entre le B1 et le B2, qui suit des cours à Sciences Po et qui se plaignait régulièrement des cours de français et de l'ennui, voilà. Donc, ça m'a fait réfléchir un petit peu sur ce thème de l'ennui et je lui ai demandé d'où est-ce que ça venait. Ça venait en particulier du contenu, du cours, du support qui était très très simple et effectivement, le professeur utilisait des supports concernant l'alimentation, concernant des thématiques qui correspondaient largement à un niveau A2 et qui permettaient pas à cet étudiant d'exploiter toutes ses capacités, de développer ses compétences. Voilà. Donc, elle a pu profiter durant sa colocation d'échanges en français. Et effectivement, j'ai pu me rendre compte que le fait d'être en dehors de la classe, d'avoir à aborder des situations complètement actionnelles, hein, puisqu'on est sur le développement de tâches, sur du contexte pur, lui permettait tout simplement d'améliorer son niveau de langue, d'améliorer son aisance linguistique, d'améliorer sa capacité lexicale. Voilà.
Ouais, ben on en revient à l'évaluation, ouais.
Oui, là encore aussi, ouais. Problème d'évaluation de la part du professeur, peut-être aussi un problème d'attention, ouais. Tout à fait, ouais, bien sûr, d'évaluation du niveau d'estimation. Et toi, Fred ?
Eh bien moi, je n'ai pas de classe, donc je suis dans ton cas, et comme je n'ai pas de colocataire non plus, je n'ai rien cette semaine pour le quad neuf. Donc je vous propose éventuellement de passer directement au point qui tue.
Oui.
Le point qui tue, Seb, tu pourrais peut-être d'abord nous rappeler un petit peu ce que c'est ?
Oui, alors le point qui tue, c'est vraiment une rubrique pour parler de nos pratiques, sans trop de théorie, plutôt se baser sur nos expériences et expliquer comment on fait dans nos classes. Et cette semaine, pour ce numéro, j'ai choisi de parler de l'ambiance de classe, justement pour voir un peu quelle était l'ambiance idéale, et puis comment la favoriser et comment l'ambiance peut être importante pour le bon déroulé d'un cours. Alors si je commence en général, hein, ce que j'entends de la part de mes collègues ou des apprenants eux-mêmes, c'est que l'ambiance idéale est une ambiance détendue qui permet de libérer la parole. Mais le problème avec une ambiance détendue, c'est que ça peut s'appliquer pour tout. Un barbecue, c'est mieux s'il y a une ambiance détendue. Un apéritif, c'est pareil. Un vernissage, c'est mieux dans une ambiance détendue. Donc ça veut pas dire grand-chose d'avoir une ambiance détendue. Et j'ai essayé de creuser un petit peu ce qui était important pour moi dans une ambiance de classe. Et pour ça, j'ai deux expériences que je vais essayer de comparer. Une première expérience qui était, dans mes premières expériences, j'étais animateur linguistique dans des camps en immersion en français pour l'association Roulante. Et évidemment, là, c'était très différent puisque les participants et l'équipe faisaient ça sur leur temps de vacances. Donc, il y avait des ados qui venaient passer 12 jours de leurs vacances en immersion en français, et puis des profs et des animateurs qui étaient en vacances aussi et qui faisaient ça sur leur temps de vacances parce qu'ils aimaient bien ça. Dans ce cadre-là, donc l'ambiance, c'est une ambiance de vacances, hein, qui là aussi ça marche avec une ambiance détendue. Et puis à côté de ça, j'ai aussi une expérience en université, donc à Lille 3, ça s'appelait le département des étudiants étrangers, maintenant ça s'appelle le Défi, où on avait des apprenants qui prenaient 20 heures de cours par semaine et qui avaient pour objectif souvent d'intégrer un système universitaire ou une école en France, en tous les cas. Donc, c'était pas du tout les mêmes besoins, c'était pas du tout le même public. Et pourtant, dans les deux cas, une ambiance détendue, c'était mieux. Et donc, il faut essayer de voir ce qui pourrait différencier les deux et avoir une ambiance qui nous permette de satisfaire ces deux types de publics. Alors, dans une ambiance, moi, j'ai noté qu'il y avait trois choses qui étaient importantes. C'était le contexte, les apprenants, et puis les objectifs. Alors les objectifs, évidemment, c'est les objectifs de l'institution, les objectifs des apprenants, et même chose pour le contexte, il y a le contexte de l'institution et le contexte des apprenants. En fonction de tout ça, il va falloir trouver une ambiance qui permette aux apprenants d'atteindre leurs objectifs et puis aussi de respecter les contraintes de l'institution. Donc on peut avoir des différents types d'ambiance pour différents types de travaux. Donc on peut avoir des ambiances studieuses, sérieuses, des ambiances au contraire un petit peu plus propices au jeu. Et c'est pas parce qu'on fait du jeu ou parce qu'on fait quelque chose de studieux que l'ambiance n'est pas forcément détendue. En général, ce que moi j'avais appris en maîtrise, et je crois que c'était Louise Daben, j'espère que je ne me trompe pas sur le prénom, qui avait dit que le prof avait trois fonctions. Alors je crois qu'il y a d'autres auteurs qui ont donné d'autres fonctions pour le prof, mais en gros, un prof est informateur, animateur et évaluateur. Et pour ces trois fonctions, il va falloir une ambiance malléable pour pouvoir passer d'une fonction à l'autre ou mélanger toutes les fonctions. Parce qu'on imagine bien que apporter une évaluation, comme je disais tout à l'heure avec mon apprenante, une évaluation qui n'était pas forcément positive dans un contexte de jeu, elle n'aura pas le même impact que si on arrive à avoir une ambiance un petit peu plus sérieuse pour faire le bilan sur un apprenant ou sur les progrès d'une classe. Alors dans une ambiance, pour instaurer une ambiance de classe, le prof il va avoir deux leviers. Je sais pas, vous me direz si vous en voyez d'autres, mais moi ce que j'ai relevé, c'est un premier levier qui est les activités. Et un autre levier qui serait le rapport qu'on peut instaurer entre l'enseignant et puis les apprenants. Vous voyez d'autres choses ou d'autres moyens d'agir sur l'ambiance que ces deux choses-là ?
En ce qui me concerne, je pense que quand tu parles d'activité, tu vas aussi justement les relations entre les apprenants eux-mêmes, c'est ça ?
Les activités, oui, c'est ça, c'est ce qui mettra en action les apprenants entre eux. Et effectivement, ça va être un des leviers. C'est-à-dire que si tu proposes des activités où les apprenants interagissent entre eux, ça va dynamiser ta classe et probablement améliorer l'ambiance. Alors que si tu préfères les activités prof-élève, question-réponse, tu vois, assez verticale entre les apprenants et l'enseignant, ton ambiance sera forcément différente, du coup.
Ouais.
En troisième levier, je ne sais pas si ça correspond bien par rapport aux deux premiers que tu disais, est-ce qu'on ne pourrait pas y mettre aussi en partie le dispositif de classe ? C'est-à-dire de manière très générale, ça peut être de la déco, des objets qui sont présents ou qui sont absents, au contraire, au niveau de l'agencement des tables, si on les met... Je veux dire qu'on est tous en rentrée déjà dans une salle d'examen, les tables, l'atmosphère de la classe en elle-même n'est pas forcément la même que dans, par exemple, une classe pour des enfants.
Carrément. La géographie de classe, je trouve que c'est vrai que c'est fondamental et ça peut complètement influer sur à la fois le rapport des apprenants entre eux et la relation enseignant et apprenant.
Ouais, et là aussi, tout à l'heure, on parlait de mettre en relation les apprenants entre eux ou avec le prof. Ce que je vois souvent dans les décorations de classe ou l'installation, c'est que c'est quand même souvent le prof qui la décide. Il va mettre ses affiches au mur, il va disposer les tables, les chaises comme il l'entend. Ou pour les profs, cette fois plus avec les enfants, ils vont instaurer des coins pour ritualiser, etc. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que les apprenants peuvent aussi participer à cette décoration de classe. Et moi, j'ai le souvenir d'un collègue d'espagnol qui commençait chaque cours avec une musique. Donc il accueillait les apprenants en musique. Bon, c'était de la musique espagnole, évidemment, ou hispanophone. Mais à chaque fois, c'est lui qui choisissait. Et c'était pas les apprenants qui amenaient de la musique. Alors qu'ils auraient pu partager justement.
Ouais, c'est très important, je pense, comme point. Souvent, moi, je sais que ce qui m'a bloqué dans le fait de pouvoir justement faire créer leur propre classe, leur propre dispositif de classe aux apprenants, ça a été tout simplement le curriculum et le rythme à respecter.
Ouais.
C'est pour un gain de temps, en fait. Alors parfois, dès que je pouvais, j'essaie de prendre le temps, effectivement, pour qu'ils le fassent. Je pense que ça leur permet de s'investir un peu plus, et puis du coup ils se sentent un petit peu plus à l'aise, parce que un petit peu comme chez eux, hein, comme quand nous on arrange notre chambre par exemple. Mais très très souvent c'est quelque chose au niveau du rythme, des horaires à respecter qui m'ont bloqué, ou parfois des changements de classe, pas forcément le même groupe qui revient dans la même classe, et d'un changement de groupe assez fréquent aussi.
C'est vrai que Seb, tu parlais des contraintes institutionnelles, notamment du contexte aussi, des objectifs pédagogiques des apprenants. Je trouvais que c'était vraiment important de le remettre sur le terrain, parce que c'est parfois quelque chose que l'on peut oublier quand on veut parler d'activités pour créer une ambiance idéale. Et effectivement, ça peut ce lieu, ces contraintes institutionnelles peuvent limiter en fait la liberté ou le temps que l'on peut prendre. Pour ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de proposer aux apprenants d'organiser, de s'approprier l'espace de la classe. Par contre, lorsqu'on est avec des débutants, et là je pense à mon public chinois, je vois qu'ils arrivent avec une certaine attente et une découverte. Donc pour eux, ce serait simplement un lieu traditionnel d'apprentissage avec un dispositif un peu magistral où on va mettre des tables en rang, s'asseoir pour écouter et noter. Donc parfois, je trouve que la disposition que peut mettre en place l'enseignant peut justement déstabiliser légèrement, mais dans le sens positif.
Ouais, positif ou négatif, hein, parce que oui. Justement, des fois, on pourra te reprocher. Enfin, tu vois, si par exemple à l'université de Lille 3, si j'avais fait une ambiance lounge dans ma classe pour travailler les écrits universitaires, on aurait pu me le reprocher. De la même façon, si j'utilisais le temps des apprenants, on parlait de contexte de l'institution, mais on peut aussi parler du contexte des apprenants eux-mêmes. Quand ils ont des objectifs et qui sont très très importants pour eux, si tu passes leur temps d'apprentissage à décorer ta classe, ils peuvent te le reprocher, même si cette décoration peut participer à la réussite de ton cours, tu vois. Mais il faut pas oublier ces représentations-là que les apprenants peuvent avoir en disant « je suis pas venu pour décorer une classe, je suis venu pour apprendre le français hein. ».
Pas seulement au niveau du public adulte, puisque à l'Alliance française de Shanghai, j'ai pu voir ça auprès de certains collègues qui avaient un public jeune public et qui se sont dit qu'ils pouvaient passer du temps justement à faire de la décoration, peut-être en délaissant un petit peu les objectifs pédagogiques du curriculum. Et là, on n'a pas seulement les enfants, on a les parents d'élèves qui sont derrière et qui rappellent très très vite à l'enseignant ce pourquoi il paie. Voilà, il se situe pas du tout en tant qu'apprenant seulement, mais aussi en tant que client.
Ouais. Alors après, tout va dépendre du style de prof. Hein. Moi, je connais des profs qui te diront, pendant qu'ils font des travaux manuels, pendant qu'ils découpent, qu'ils dessinent, ils discutent aussi, et c'est rentable. Faut voir ça. Un autre point aussi, toujours dans le même ordre d'idée, c'est que quand on est enseignant et qu'on dirige un peu les opérations d'installation de la classe, de décoration, etc., on garde un peu la mainmise sur sa classe. C'est-à-dire qu'on montre bien sa place. Et quelque part, c'est plus confortable aussi. Quand on renforce un peu ces représentations de le prof dirige et puis les apprenants exécutent. Alors, c'est pas forcément utile pour l'apprentissage, mais c'est une position aussi plus confortable que j'ai déjà vu aussi, hein. Donc les élèves attendent de toi que tu diriges les opérations, et si tu leur dis c'est vous qui le faites, donc il faut essayer de trouver de jouer un peu avec ces curseurs pour qu'ils puissent avoir de la liberté et qu'en même temps, nous, en tant qu'enseignants, on s'assure que tous les objectifs soient atteints, couverts, et que le travail soit fait.
Ouais, complètement d'accord. Il y a toujours donc ces éléments-là, ces paramètres dont il faut tenir compte. Hein. L'institution, mais aussi le type de public qu'on a, par exemple, le public asiatique, je ne sais pas comment ça se passe à Taïwan pour toi, Fred, mais en tout cas, en Chine, j'ai pu le remarquer. C'est pas un public auquel on laisse d'habitude prendre de l'initiative, donc ça peut être vraiment des solutions, des situations très déstabilisantes, tout simplement, de demander d'avoir cette action-là. En fait, tu vois, c'est vraiment une découverte, une didactique complètement différente et quelque chose de complètement étranger qui va être difficile, même déjà dans un premier temps, de comprendre.
Ouais, en tous les cas, moi je serais jamais partisan dans ce cas-là de quelque chose de trop brutal, mais d'y aller petit à petit. Et l'un des moyens pour justement amener ces changements de rôle et puis une ambiance où chacun trouve sa place, ce sont les activités. On va en reparler. J'ai essayé de faire un classement des activités. Je crois qu'il doit y avoir 10 000 classements d'activités entre exercices et tout ça. Mais là, j'ai essayé de penser à quelques critères qui pourraient avoir de l'influence sur l'ambiance de classe. Et donc, j'ai fait trois types de critères en opposition. Des activités dynamiques versus des activités statiques. Donc là, c'est où on demande des déplacements ou on n'en demande pas. Ouais. Des activités actives et passives. Alors là, on pourra me reprocher plein de trucs, mais active, c'est là où les apprenants produisent, et passive, c'est là où ils ne produisent pas, ils sont plutôt en situation de réception. Et puis, des activités ludiques versus des activités studieuses.
D'accord.
Alors, en général, on a tendance à dire que la première liste, donc dynamique, active, ludique, ce sera quelque chose de super. C'est ce qu'il faut faire en classe pour avoir une bonne ambiance et donc avoir de bons cours. Mais oui.
Ça dépend quand même, je pense, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, tout simplement des objectifs à atteindre et de ce que tu souhaites faire en classe. Je crois que tu as commencé peut-être à l'aborder, mais quand on parlait d'évaluation, selon le genre d'évaluation là aussi que tu veux faire, si tu veux avoir un certain impact, par exemple d'une correction qui va être faite, si les gens sont encore, les apprenants, les gens sont encore en train d'être dans le jeu, si ça a été une activité ludique, à se demander « Ah ouais, toi, qu'est-ce que t'as fait ?» etc. Là, c'est peut-être pas la meilleure chose à avoir. Je pense que, comme tu disais aussi un petit peu précédemment, il faut arriver à trouver un équilibre et passer de l'un à l'autre, en fait, selon les objectifs et les différents paramètres.
Ouais, je pense que la question du rythme aussi est essentielle. Hein. Un petit peu comme dans la musique, jouer tout le temps un allegro, ça devient difficile, mais le fait de pouvoir passer à des rythmes plus lents, ça permet aussi de se reconcentrer, de se focaliser, et puis aussi de satisfaire les différents profils d'apprentissage. On parlait de notre public, on parlait de ses objectifs. On a aussi des profils qui ont besoin aussi d'activités demandant une individualité plus importante, une concentration plus importante, tandis que d'autres vont pouvoir vraiment s'épanouir dans des activités plus dynamiques.
Ouais, ouais. Et sur ces trois critères que j'ai mentionnés, ils s'excluent pas les uns les autres. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait une activité dynamique que les apprenants sont forcément actifs et en situation de jeu. On peut très bien avoir une activité dynamique, active et studieuse. En essayant de varier les curseurs, comme ça, on peut avoir une variété d'activités. Alors comme tu le disais, Pascaline, et j'ai bien aimé ton mot de satisfaire, parce que c'est vraiment ça. Une chose qu'il faut éviter, c'est il faut essayer de résister à l'envie de plaire. On associe souvent un petit peu la profession d'enseignant à celle d'acteur. Et souvent, justement, pour être à l'aise, pour être le plus confortable possible dans sa classe, on va avoir des enseignants qui vont faire des activités pour plaire à l'apprenant. Et ça marche pas toujours, d'ailleurs.
Non.
Donc, il faut d'abord essayer d'atteindre les objectifs. Alors peut-être qu'effectivement, la notion de plaisir sera pas immédiate. Mais à la fin du trimestre, du semestre ou de la période de cours, peut-être qu'ils sentiront quelque chose et qui diront ouais, c'est vrai que bon, là on a été, c'était très studieux, j'ai pas beaucoup bougé de ma chaise, mais c'était nécessaire.
Mais c'était nécessaire, ouais, totalement. Si on arrive à leur faire prendre conscience de pourquoi on fait les choses et effectivement qu'ils voient qu'il y a des résultats, ouais.
Je pense que oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu dis, Fred. Hein. C'est cette idée qui est très importante, c'est d'annoncer aussi, de partager les objectifs pédagogiques de ce que l'on fait, de le justifier pour que les apprenants sachent ce qu'ils font et qu'ils connaissent l'utilité. Et puis de travailler sur des rythmes différents. J'avais un public chinois que l'on prétend pas très joueur, mais plutôt studieux et rétif justement à des formes ludiques. Donc c'est vrai que pour tenir compte de ce public, je pense que je porte une attention particulière sur la justification des objectifs. Par contre, je me suis rendu compte que c'était un public qui appréciait énormément les activités dynamiques, des activités aussi que je qualifierais de ludiques, mais avec des objectifs là encore pédagogiques complètement affichés et complètement justifiés, et qui apprécient le rire. Ça fait partie des choses que j'ajouterais, je veux dire, au niveau de l'ambiance idéale, et qui peuvent dépendre de la personnalité de l'enseignant. Mais pour moi, l'humour, que je n'associe pas à la volonté de plaire ou de séduire, mais a toujours joué un rôle capital et a vraiment, j'ai eu l'impression, libérer les apprenants, libérer la relation enseignant-apprenant.
Oui, alors pour revenir un peu à cette variété des activités, puis cette possibilité de bouger les curseurs, c'est justement ce qui, à mon avis, ce qu'il faut proposer, c'est-à-dire pas mal d'activités différentes, et puis de peu à peu varier plus ou moins les curseurs. C'est-à-dire que si vous voulez faire des activités un peu dynamiques avec un public qui ne l'est pas, mais que vous sentez que ça peut aider à atteindre vos objectifs et puis les objectifs de votre institution, y aller par étapes. Donc des activités où ils vont devoir se déplacer pour aller chercher des renseignements à un ou deux autres apprenants, et puis après on va avoir des activités où il y aura de plus en plus de mouvements dans la classe, mais pas tout de suite commencer en les faisant courir d'un mur à l'autre, parce que du coup ils vont pas comprendre. Donc il faut les habituer petit à petit, et puis pousser les curseurs un petit peu plus pour essayer d'avoir un maximum d'activités à disposition, et puis faciliter les transitions les transitions d'une activité à l'autre par la suite.
Cet élément de diversification aussi d'activités progressivement mises en place sont très importants, et toujours le fait de faire des apprenants des acteurs de leur apprentissage. Alors c'est un petit peu formel, mais ça veut simplement dire annoncer pourquoi on fait ça, ce qu'on va apprendre, quels vont être les résultats, et normalement en fait les apprenants s'en rendent compte eux-mêmes. Moi, j'aime bien appliquer des jeux que je fais avec le jeune public, le faire avec le public adulte. En tout cas, chinois, ça marche très très bien. Ça se passe au tableau. Ce sont des jeux d'équipe pour travailler sur la conjugaison, des fois pour travailler sur la compréhension orale, pour travailler sur la phonétique. J'annonce toujours mes objectifs en premier, et les étudiants peuvent voir après 10 minutes qu'eux-mêmes ont progressé. Et jusqu'à présent, ils en ont toujours été extrêmement satisfaits. J'ai eu une seule adulte qui venait d'arriver en classe et qui effectivement était surprise par ce type d'enseignement, par ce type d'activité, mais en général, ça marche du tonnerre.
Ouais, alors là aussi, c'est pareil, si tu annonces les objectifs, je pense qu'il faut essayer de les rendre compréhensibles par les apprenants. La phonétique, c'est très bien pour ça. Je vais vous apprendre à prononcer le R. On va devoir faire ce travail-là pour pouvoir y arriver. Ça parle immédiatement. Si on est sur des objectifs un peu plus complexes, un peu plus pragmatiques, où il faut commencer à dire, vous allez travailler ce type de texte-là parce que par la suite, ça fera travailler cet objectif grammatical-là que vous pourrez réinvestir, tu vois, ça devient tout de suite plus complexe. Donc là aussi, étape par étape, ça peut aider, quoi.
Moi, j'ai jamais eu de mal, hein, au niveau des objectifs, à synthétiser, à montrer l'objectif à court terme ou à long terme, et j'ai toujours été suivie par les étudiants. Je pense qu'ils apprécient plus ça que le fait d'avoir un enseignant qui va proposer des jeux sans explication. Ils vont se dire, mais il nous fait perdre notre temps, en fait. Là, il est en train de meubler son cours, parce que c'est un petit peu de ça dont on parle, en fait. Quelquefois, des activités qui ne sont pas justifiées, c'est un peu une manière de meubler un cours. Ça peut le devenir, en tout cas.
Oui, j'ai justement une petite anecdote à ce sujet. Avec une classe, c'était un nouveau groupe. Non, c'était un ancien groupe que j'avais, mais il y avait beaucoup de nouveaux élèves. Et j'avais mis en place plusieurs activités, parce que vous avez beaucoup parlé d'une certaine progression dans les activités, les rendre peut-être par exemple de plus en plus dynamiques pour habituer les apprenants à ce genre d'activités. Je pense aussi que c'est important qu'il y ait une progression dans la relation des apprenants entre eux. C'est-à-dire que même si vous faites une activité qui n'est pas très très dynamique, mais qui leur demande de collaborer dès le début alors qu'ils ne se connaissent pas du tout, votre activité, elle a de très grandes chances d'échouer. Et on peut se dire, alors, ah ben, cette activité, en fait, elle n'était pas bien, etc. Et non, pas du tout. C'est juste que leur relation, ils ne se connaissaient pas encore assez pour arriver à collaborer et avoir un résultat, et avoir le résultat attendu, on va dire. Et donc, j'avais créé ce genre de petites activités. Et la première était effectivement plutôt sous forme ludique. Et j'ai demandé, en fait, une fois l'activité était finie, c'était pour un remplacement, en fait, des traditionnelles présentations, j'ai envie de dire. Et j'ai demandé à la classe, en fait, je leur ai dit, c'était des B2, hein, à votre avis, pourquoi je vous ai fait faire ça, cette activité pour vous présenter, plutôt qu'une présentation classique? C'était parce que j'avais 10 minutes à meubler, je leur ai dit tel quel, j'ai pas utilisé le mot meubler, je pense, parce qu'ils ne connaissaient pas. Et j'ai un élève qui m'a dit tout de suite, hein, ça c'était toujours agréable d'avoir un retour tout de suite, bah oui, c'était pas ça. Et j'ai eu la chance, par contre, là aussi, vu que je leur avais posé la question, d'avoir quelqu'un d'autre qui a répondu, et c'était marrant parce qu'ils étaient des deux côtés de la classe, là, pour le coup, et une jeune femme qui a dit « Ben non, parce que finalement, j'ai regardé, on n'a pas passé tant de temps que ça par rapport à quand tout le monde se présente les uns après les autres. Moi, j'ai pu un peu connaître les gens, donc... » En fait, elle a plus ou moins énoncé, moi, principalement les objectifs que j'avais derrière cette activité-là. Et là, il y avait, un impact très très grand sur les autres apprenants, étant donné que ce n'était pas moi qui les avais annoncés, mais quelqu'un avait compris dans la classe pourquoi on avait un petit peu fait ça comme ça.
Ouais, effectivement, c'est marrant. Donc toi, tu as fait l'annonce de l'objectif après l'activité.
Oui, bah, c'était là pour le coup une activité vraiment d'apprendre à se connaître, hein, et je leur ai dit tout de suite, vu que vous êtes nombreux à ne pas vous connaître, je vous propose une petite activité. Et donc cet objectif-là, ils le savaient, mais au niveau de la forme, c'était pas forcément quelque chose à laquelle ils s'attendaient. Et je leur ai demandé, à votre avis, pourquoi j'ai préféré utiliser ce genre de forme plutôt que quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, avec une présentation, par exemple, l'un après l'autre, rapide, des différentes personnes.
Ouais. Alors justement, les petits trucs pour lancer des activités, hein, les petits trucs de prof, il faut bien penser à son intonation, surtout si vous avez une activité qui nécessite deux ou trois consignes consécutives. Bien penser à faire monter son intonation, ça permet de garder les gens à l'écoute. Au lieu de dire écrivez votre prénom, écrivez votre nom, etc. Écrivez votre nom. Puis, vous voyez, ça permet de garder l'attention. Et puis, toujours sur les consignes, il y a cette règle de 3 qui est d'expliquer les consignes. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est de donner un exemple. Et la troisième, c'est de vérifier le début pour bien être sûr que les consignes sont bien appliquées, quoi. Moi, c'est ce que j'applique à chaque fois. Hein. Et je sais que j'écris très peu ce que je dis en cours, mais pour les consignes, j'essaie toujours de les écrire parce que parfois, ça peut être assez complexe aussi. Hein.
Moi, je pense que c'est pas mal aussi, je fais avec mes apprenants, selon leur niveau, mais c'est de faire reformuler pour vérifier justement la compréhension. À partir du moment où les apprenants commencent à se connaître entre eux, il y en a même qui prennent spontanément la parole. Voilà, c'est de redire avec leurs mots ce qu'ils vont faire.
Ouais, je fais ça. Tu fais façon maîtresse, tu peux répéter ce que je viens de dire?
Non, je fais pas façon maîtresse, je suis pas du tout dans ce rapport-là. C'est vraiment reformuler. C'est alors du coup, on fait quoi maintenant? Ouais, voilà, faire reformuler et de bien marquer les étapes. Parce que ben il y a toujours des apprenants qui sont en train de faire autre chose au moment où on fait la consigne, il y en a toujours qui se tournent vers d'autres et en fait on est un petit peu, ça permet d'instaurer un petit peu ce relais entre pairs. Ben ça va être simplement des apprenants qui vont reformuler avec leurs mots dans un vocabulaire compréhensible, maîtrisé par tous, c'est ce qu'il faut faire.
Ouais. Alors après les activités, hein, on avait parlé du rapport prof-élève. Là, je vais essayer d'être plus court. Et donc moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est un rapport respectueux et à l'écoute. Donc effectivement, s'intéresser à ce qu'ils disent, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont besoin de faire dans la classe. Alors, on en parlera peut-être un petit peu plus dans le détail après, mais aussi un rapport franc. C'est-à-dire que quand on est évaluateur ou quand quelque chose n'a pas été bien fait, de pas hésiter à le dire. Et ça, que ce soit avec des débutants ou avec avec des niveaux un peu plus avancés, essayez de le garder. C'est-à-dire que moi, sur mes débutants, par exemple, j'hésite pas à leur dire, bah, écoutez, là, les exercices, vous les avez pas fait quand même, faut pas espérer progresser. Et même chose, quand on a des apprenants, parfois avec un niveau très avancé, mais une prononciation qui peut poser beaucoup de problèmes à la compréhension, leur dire aussi à un moment, leur dire, écoutez, il y a ce problème-là qu'il faut vraiment travailler. Donc, essayer de les guider à ce niveau-là, tout en étant dans la franchise, mais respectueux, pas être trop violent dans la critique. Et puis, en même temps, rester ferme, c'est-à-dire être à l'écoute, mais ne pas non plus être trop au service d'eux. Parce que si on écoute certains apprenants, on parlait des représentations, on peut avoir des gens qui vont dire « Ah non, mais là, on fait pas assez de grammaire, je veux plus d'exercices, etc. » Oui, on peut augmenter les exercices, mais ne pas hésiter à dire bah, « Écoutez, moi, je veux bien vous donner tous les exercices que vous voulez, mais vous voyez bien que là, vous avez fait plein d'exercices et que dans votre production finale, on voit toujours ces mêmes erreurs qui reviennent. Donc peut-être qu'il y a d'autres choses à faire pour essayer d'avancer. » Donc, vous voyez un peu ce rapport qui peut être convivial, mais en même temps, faut pas oublier qu'on est là pour les faire progresser et que parfois il y a des choses qui sont un peu moins sympathiques à entendre que des feedbacks positifs, et essayez aussi de travailler là-dessus.
Ouais, il faut le dire. Il y a des choses à dire. Comme tu le disais, après ça dépend de la manière de le dire, mais quand on arrive à instituer ce genre de rapport. Les gens en prennent l'habitude, et je pense que beaucoup d'apprenants finalement aussi sont assez demandeurs, même ceux qui vont demander à faire des activités qui vont plutôt dans leur sens. Ben, quand on leur explique ou quand on leur dit non, mais là c'est vrai qu'il y a un souci, c'est vraiment dommage avec votre niveau actuel, qu'il y a ce petit souci au niveau de la phonétique, il faut vraiment le travailler. On parle assez souvent de personnalisation d'apprentissage, etc. Ben, ça, c'est ce genre de conseils qui sont pas forcément les plus agréables à entendre, mais on est plus ou moins, je pense, les mieux placés pour les faire. Non ?
Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai déjà eu d'ailleurs des remerciements, et en plus dans le cadre d'un examen. Donc pareil, j'ai évalué une étudiante japonaise pour le coup, et qui n'était pas contente de sa note à l'oral. Mais j'avais pris, je prends toujours beaucoup de notes. Hein. J'avais pris toute une série de notes, et puis je lui ai fait un bilan, en disant ben voilà, j'ai mis cette note là, je reviens pas dessus parce que il y avait ça comme problème, en la citant à chaque fois. Et au final, elle était contente.
Mm. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Ouais.
Et justement, pour être à l'écoute, il faut aussi encourager ces apprenants à parler et à partager leur vécu du cours. Pour ça, évidemment, on peut leur demander. On peut aussi formaliser un petit peu plus l'évaluation du cours. Moi, je sais que dès le début, j'essaie de leur dire, écoutez, si vous pensez qu'il n'y a pas assez de ceci, pas assez de cela, essayez de me le dire, parce que c'est pas quand le cours sera fini que ce sera utile, puisque là, vous passerez à un autre prof, et puis on pourra plus rien faire pour améliorer la situation. Si vous le dites pendant le cours, on peut essayer de voir comment s'améliorer. Et un petit truc pour ça, c'est ne pas hésiter à s'autocritiquer. Ça, je le fais beaucoup, justement, dans les premiers cours, je donne une consigne, je la donne pas très très bien, par exemple. Et parfois, je le fais même exprès de pas très très bien la donner. Et les apprenants disent « Non, mais là, est-ce qu'il faut faire ça ou ça ?» Et je leur dis « Ouais, là, c'est vrai qu'il y a une faiblesse, j'aurais dû travailler un petit peu plus ça, parce que c'est vrai que c'est pas clair. » Et de cette façon-là, en se critiquant soi-même devant eux, ils auront moins de soucis, j'ai trouvé, moi, à pouvoir après émettre des critiques ou formuler des demandes pour le cours.
D'accord, ouais, là, tu crées une brèche.
Voilà.
Ouais, là, j'ai envie de dire que ça dépend encore de ton public, parce que par exemple, pour le public chinois, un enseignant qui reconnaît qu'il s'est trompé, c'est un enseignant qui perd la face, c'est un enseignant qui avoue sa faiblesse et son manque de compétences. Donc là encore, toujours connaître assez finement son public et ce que l'on peut faire devant son public et ce qu'il vaut mieux éviter de faire.
Ouais, ouais.
Je sais quand même pas, Pascaline, moi là, je connais pas le public chinois, moi, mais quand on parle de face, après toutes ces années au Japon, on m'avait beaucoup parlé de ça. Et je sais que au Japon, surtout les personnes qui étudient depuis un moment, il y en a certains même qui testent le prof, qui posent des questions, qui connaissent la réponse. Et en fait, moi, j'avais pas mal de classes de niveau assez avancé, quoi, au moins en B2. Et quand il y avait des questions vraiment pointues, plutôt que de partir, quand j'avais pas la réponse, hein, plutôt que de partir à pédaler dans la semoule, à essayer de trouver une excuse ou quelque chose, au contraire, j'avais pris l'habitude de dire, d'exposer déjà un petit peu mes connaissances, voir ce que je pouvais partager avec eux, mais leur dire je suis pas très convaincu ou alors je suis pas sûr à 100%. Donc ce que je vous propose, je vais vérifier que vous ayez vraiment l'information qu'il vous faut pour que vous puissiez progresser et je vous en parle la semaine d'après. Et là, surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est oublier la semaine d'après. Mais si tu y penses, alors là, pour le coup, parce qu'en général, eux, souvent, ils ont oublié, ils disent, ah ouais, c'est vrai que le prof avait dit ça et ça. Et là, ça montre quelque chose d'assez sérieux. Et je pense pas qu'on perde la face. C'est pas, parce qu'on ne sait pas quelque chose, je sais pas, j'avais cette impression, moi, avec le public japonais.
Ouais, c'est pas la même chose. Parce que je me situais pas à ce niveau-là. Là, ce dont on fait de parler, c'était de faire son autocritique, en fait, pour le donner, finalement, à adopter une démarche d'autocritique qui permette aussi aux apprenants de voir que l'enseignant aussi peut faire des erreurs et puis qu'eux-mêmes peuvent adopter cette démarche en parallèle avec, dans le cadre de leurs activités. Là, c'est encore autre chose. On est au niveau des apprenants qui posent des questions. Alors, moi aussi, oui, bien sûr. Lorsque je ne suis pas sûre de quelque chose, plutôt que d'inventer n'importe quoi, je préfère dire que pendant la pause, eh bien, je vais regarder, je vais en discuter avec mes collègues et que je reviendrai et j'explique les raisons pour lesquelles c'est un petit peu difficile de répondre clairement. Par contre, effectivement, j'ai eu des profs qui ont eu énormément de problèmes et des profs qui n'étaient pas titulaires mais qu'on n'a pas repris parce qu'ils ont fait des aveux de faiblesse en classe et que les étudiants se sont plaints ensuite à l'administration pour dire que ce prof n'avait pas le niveau.
Moi, au-delà de l'exemple que j'ai donné, je le mets un petit peu dans le même panier, alors j'ai peut-être tort, mais effectivement, non, au niveau de l'autocritique, ça, je ne fais pas comme Seb, je n'ai jamais poussé à créer des faiblesses dès le début, c'est très technique, c'est une bonne idée, j'essaierai peut-être, mais non, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, moi je l'avoue, alors pas dans le genre, ah là là, je suis un prof nul ou quoi que ce soit, c'est juste que je suis une personne humaine qui a ses faiblesses, qui a ses moments de fatigue aussi, et en général j'ai toujours des apprenants qui ont été compréhensifs à ce niveau là et je n'ai pas eu de plainte, donc c'est très intéressant l'expérience que tu ce que tu me dis là, ça me fait un petit peu peur maintenant.
Non, mais à l'inverse, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est de dire à une classe, écoutez, là, je m'ennuie, quoi. Une classe un peu molle, comme ça, où les gens ne réagissent pas, tu me poses une question, il n'y a pas de réponse, c'est un blanc, tu vois. Leur dire vraiment, donc, moi, j'ai pas... Là, je m'ennuie, j'ai pas envie, ça me plaît pas de travailler comme ça avec vous, il va falloir qu'on trouve une solution, quoi. Et ça permettait à eux d'essayer de réfléchir au moins au problème, parce que si vous le ressentez en tant que prof, il y a de fortes chances que eux le sentent aussi en tant qu'apprenant, donc puisqu'on est ensemble, autant travailler ensemble sur ça, quoi.
Et autant en parler, ouais, je suis d'accord.
Le dernier point de ce dossier, c'est le vouvoiement. C'est toujours la grande question. Est-ce qu'on utilise le « tu » ou le « vous » ? Bon, pas de grande révolution à ce sujet. Hein. Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise le vouvoiement systématiquement en classe. C'est vrai que quand c'était l'été avec mes groupes de jeunes, etc., non, là, c'était le « tu ». Mais j'utilise tout simplement pour des raisons de flexion verbale. Parce que entre je parle et tu parles, il n'y a pas trop de différence. Alors que si on utilise le vous, on commence à faire la différence entre je parle et vous parlez, et donc on travaille un petit peu cette flexion verbale un peu plus, en tout cas, qu'en utilisant simplement le je et le tu. N'empêche que à l'extérieur du cours, parce que moi je croise souvent mes apprenants à l'extérieur, là j'ai plutôt tendance à utiliser le tutoiement. Et ça se passe très, très bien comme ça.
Alors moi, j'utilise pratiquement exclusivement le « tu » avec tout le monde. Je suis convaincue du « tu ». Et depuis que je n'habite plus en France, j'ai du mal à utiliser le « vous », y compris quand je reviens en France. Voilà, j'ai vraiment dû me réapproprier le « vous » en France.
Et c'est justement pour ça que moi, je maintiens le « vous ». Parce que justement, s'ils viennent en France ou dans pas mal d'autres pays francophones, finalement, le « vous » reste encore assez présent. Hein.
J'habitais au Canada et au Québec, on disait beaucoup, beaucoup.
Ah oui. Ben oui.
Et voilà. Et puis j'ai aussi travaillé à Amsterdam dans une équipe pluriculturelle où finalement c'était le TU qui l'emportait. Et les étudiants, en fait, ils voient bien la différence entre, donc j'ai parlé de mon public chinois, entre l'enseignant qui tutoie et eux-mêmes qui, par respect avec le Laoshan, vont conserver un vous respectueux.
Ouais. Après, en Amérique du Nord, c'est vrai que c'est assez différent. Enfin, je veux dire, ici à New York, quand on va à la banque et puis que le banquier ou la banquière vous appelle mon chéri. Enfin, c'est une mauvaise traduction, mais c'est un peu ça. C'est vrai que la culture de communication au Québec est différente. Hein, c'est clair. Mais dans certains pays d'Afrique ou même en Suisse ou en Belgique, le vous reste encore bien utilisé. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas tellement de recommandations à faire là-dessus. C'est juste une question à évoquer. Je suis pas tellement sûr, en tout cas, que ça, surtout avec des débutants, il y ait une différence de proximité entre les apprenants et le prof qui utilise, selon s'il utilise le tu ou le vous. Je sais pas s'ils y sont si sensibles que ça.
Ouais, non, je sais pas non plus s'ils y sont si sensibles, mais du coup, je trouve que ça, le vous perd un petit peu de son sens, parce que s'ils utilisent le vous en se sentant assez proche peut-être de l'enseignant, est-ce que ça peut pas poser des problèmes pour plus tard, hein? Je suis passé un petit peu par différentes phases, plutôt du tu, plutôt du vous. À Taïwan, c'est beaucoup le tu, ils utilisent beaucoup le tu en classe. Souvent, moi, je leur demande un petit peu, parce qu'on change de groupe tout le temps, donc je leur demande, jusqu'à maintenant, vous avez fait comment? Comme on disait tout à l'heure, hein, essayer de communiquer au maximum avec les apprenants pour savoir un peu comment ça se passait et pas les faire danser sur un autre pied tout de suite, hein, quitte après, à faire de petits ajustements.
Moi, je suis vraiment une fervente partisane de ce tu, de cette proximité linguistique. Je trouve que ça décomplexe, ça destitue un peu le côté magistral de l'enseignant. Par contre, je sais que du côté des apprenants, donc je parle des apprenants adultes, ils voient bien la différence de registre, la différence de situation, la différence de contexte. À partir du moment où on l'a éclairci, on l'a conceptualisé en classe, ils voient quand ils s'adressent à un professeur, quand ils s'adressent à une personne d'une hiérarchie supérieure, à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ou quand ils s'adressent à un collègue, ou qu'ils s'adressent à quelqu'un avec qui ils apprennent le français.
Bon, voilà, c'est un peu tout pour ce dossier et on va passer maintenant à la ressource de la semaine. Pascaline, c'est quoi ta ressource?
Alors, c'est pas exactement la ressource de la semaine, hein. Si j'ai bien compris, c'est la ressource des agités.
Exactement.
Voilà. Ouais. Alors, la ressource qui pourrait être utile, que l'on pourrait utiliser en classe ou alors que l'on pourrait en tout cas utiliser dans l'apprentissage d'une langue étrangère, eh bien, ma ressource, c'est le blog de Frédéric Bibard qui s'appelle Talking French. Alors, c'est un blog qui est écrit en anglais. Et ce qui m'a intéressé, c'était sa proposition de 31 films français, un film français par jour avec une jolie sélection. Et puis, ben, pour une fois, c'est écrit en anglais. Il justifie en anglais donc les raisons pour lesquelles il a choisi ces films. Et ça s'adresse en particulier aux amoureux du cinéma francophone, du cinéma français, mais aussi à tous ceux qui ont envie d'écouter et de se mettre un petit peu en immersion linguistique. Voilà. Donc, parmi la sélection, on va retrouver Sauf qui peut, donc de Godard, mais on va aussi retrouver Angélique, Marquise des Anges, Les Parapluies de Cherbourg, donc des films vraiment différents, de styles très différents, qui peuvent donner un panorama du cinéma français et se faire plaisir. Voilà.
Et toi, Seb, ta ressource, qu'est-ce que c'est?
Alors, moi, c'est le web documentaire du Monde qui s'appelle Une année en France. Alors, je compte l'utiliser en classe dans ce trimestre, un peu en complément d'une activité que j'avais achetée sur la boutique des experts sur Le Village, où il s'agissait de constituer un village. C'était pour les niveaux débutants, donc c'était sur Ilia, etc. Et moi, je vais essayer de réexploiter un petit peu cette idée avec ce web documentaire. Alors, j'ai repéré, en fait, c'est très simple, hein, il y a des volets et puis ça concerne certaines certaines villes de France, certains endroits. Et moi, je vais exploiter trois parties de ce web documentaire, dont une qui s'appelle Durée et qui parle du développement des petites villes en France. Et il y a trois extraits vidéo. Une vidéo du maire qui explique un peu quels services sont nécessaires dans une ville de 7000 habitants à peu près, c'est la ville d'Avallon, et il explique pourquoi avoir des services trop spécialisés c'est pas utile, alors que au contraire permettre l'accès à ces services depuis sa ville, ça c'est important. Il y a aussi une entreprise qui explique pourquoi elle veut rester et pourquoi elle restera pas s'il y a des choses qui se développent pas, et puis un autre chef d'entreprise qui explique que pour lui la modernité c'est plutôt de profiter de la nature tout en ayant des outils pour le travail. Donc je vais essayer d'exploiter ça dans mes cours pour voir un petit peu cette thématique du développement urbain dans une ville et ce qu'il faut comme service et comment repenser son travail et son environnement.
D'accord.
Okay. Wow, Fred.
Alors moi, ma ressource, c'est beaucoup de ressources en fait. Non, c'est un site internet qui s'appelle 365data.fr, hein, 365data.fr, on mettra le lien dans les notes de l'émission. C'est un petit site internet en fait qui présente pour chaque jour de l'année une infographie. Voilà, donc si vous avez suivi un petit peu certaines des ressources qu'on partage sur Agitalks, si vous avez lu l'article d'introduction sur les infographies écrit par Céline sur T'enseignes-tu, et que vous êtes en recherche d'infographies pour vos cours, mais sur ce site internet, vous pouvez trouver tous les jours une nouvelle infographie qui présente une donnée, souvent, parfois un petit peu comique, parfois un petit peu étonnante, à exploiter. C'est très intéressant. En général, il se base toujours sur la fête de quelque chose ou la journée mondiale de quelque chose. Par exemple, je regarde donc aujourd'hui, le 17 avril, c'est la journée mondiale des luttes paysannes. Voilà. Et vous avez en fait une infographie donc, qui est très limitée, c'est un dessin. Et on vous dit par exemple que pour répondre à sa consommation alimentaire, l'Europe mobilise chaque année l'équivalent de une fois et demie sa surface, avec un petit dessin sympa. Je pense que ça peut être utile pour. Je vais essayer de faire ça moi d'ailleurs à la rentrée pour parfois faire des petites conversations en début de cours, ou vous avez sur le site des filtres pour sélectionner les infographies par thème, un moteur de recherche, donc vous pouvez retrouver assez rapidement des infographies sur le thème que vous souhaitez. Il y a de tout, hein, alimentation, vie quotidienne, économie, même les inclassables, plutôt environnement, planète, la santé, pour des supports de cours en documents déclencheurs ou pour un support de petites conversations.
Et elles sont en français, ces infographies ?
Et oui, tout ça est en français. C'est WeDo Data. Alors, c'est que des noms en anglais. Hein. C'est WeDo Data. C'est une société qui s'appelle WeDo Data qui fait ça. Je vous conseille d'ailleurs, vous pouvez, à partir du site que je vous ai donné, accéder aussi au site de WeDo Data. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais trouvé ce site-là, parce que je suis en train d'écrire un article sur, donc, pas sur les infographies, mais plutôt pour tout ce qui est support de cours interactif, donc web documentaire, ce qu'on appelle la data viz, c'est-à-dire la visualisation de données, mais de manière interactive. Et WeDo Data a fait beaucoup de choses, ils ont travaillé notamment pour Arte, la SNCF, France Télévisions, plusieurs groupes français, donc tout ça est en français. Allez voir sur leur site, ils ont de super documents interactifs qu'on peut exploiter de différentes manières. Moi j'avais déjà exploité notamment un comparateur de CO2 où on sélectionne les produits de consommation courante et on peut comparer la quantité de CO2 nécessaire pour les produire, tout en parlant en fait un petit peu de la consommation de ces produits en France. Et c'est tout ça est bien sûr toujours très très visuel. Donc je vous le recommande, allez y jeter un petit coup d'œil. Je vais essayer d'ajouter ça moi aussi au plus vite au répertoire collaboratif des ressources d'Agito. Voilà.
Bah ouais, en tout cas tu m'as convaincue. C'est clair que pour renouveler un petit peu les supports qui sont proposés dans les manuels de FLE, ça paraît top. C'est vrai qu'on se retrouve parfois avec des, non pas des infographies, mais des supports imagés qui datent déjà de 10 ans, qui sont un peu vieux, qui sont pas très visuels, et le fait d'utiliser dès qu'on a un TBI des infographies, en fait, ça fait plaisir à voir, ça attire plus l'attention. Donc, merci Fred de cette belle ressource.
Mais de rien.
Maintenant qu'on a fini de parler de nos ressources des invités, eh bien, on va échanger un petit peu sur notre expérience, sur quelque chose qu'on aimerait mettre en place dans nos classes. Alors, puisque en ce moment, on n'a pas de classe, justement, je vais parler de quelque chose que je voudrais mettre en place lorsque j'aurai un nouveau contrat. Et moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est une collaboration avec la médiathèque. Alors, c'est un projet d'envergure, mais ce dont je voudrais plutôt parler aujourd'hui, c'est d'une volonté de créer un prolongement de l'apprentissage ou un enrichissement, en tout cas, de l'enseignement au sein de la médiathèque. Je dis ça parce que j'ai souvent remarqué dans les alliances où j'ai travaillé ou dans l'institut français où j'étais au Vietnam qu'on exploitait peu la médiathèque, aussi bien pour l'enseignement que pour ses ressources ou comme lieu de vie aussi. Et donc voilà, j'aimerais bien réaliser quelque chose, j'aimerais bien que ça devienne un lieu réflexe un petit peu où l'on puisse aller comme ça pour enseigner, pour faire une petite recherche, pour travailler sur la couverture d'un livre, pour utiliser un petit peu la presse, sans que ce soit formel, sans que ce soit très cadré, mais que ce soit beaucoup plus spontané. Voilà, j'aimerais pouvoir partager ça et puis développer d'autres choses avec le médiathécaire. Et toi, Seb, tu penses à quoi ?
Alors, moi, en t'écoutant, je pense à mon ancienne bibliothécaire de l'île 3, Ivona, que je salue au passage. Mais non, moi, mon projet, ce sera de... Vous savez que je travaille avec Edmodo pour échanger avec mes apprenants. Ça fait deux trimestres que maintenant ils commencent à s'habituer, mais je trouve qu'il y a encore du boulot à faire, dans le sens où c'est plus moi qui anime et eux qui reçoivent et qui commentent parfois. J'ai quelques rares étudiants qui proposent des choses à la classe, mais il n'y a pas assez de suivi. Donc je vais essayer de me pencher sur l'animation de cette plateforme au niveau de la classe. Comment est-ce qu'elle peut prolonger la classe et essayer de trouver quelques trucs. Alors j'avais déjà mis quelques astuces en place, comme par exemple mettre les dates d'évaluation uniquement sur Edmodo pour qu'ils y aillent. Mais non, ça c'était le coup vache. Mais aussi partager des ressources culturelles. Vous savez que nous ici on a Netflix qui marche plutôt pas mal. Il y a aussi quelques plateformes musicales qui fonctionne bien. Donc essayer de partager plus avec eux, essayer de mettre en place ce système de badge que j'avais commencé, mais bon, c'était pas non plus top, plus d'exercices qui se font sur la plateforme en prolongement du cours, et essayer d'animer ça et d'en faire un lieu d'étude et d'échange. Donc voilà ce que je vais essayer de faire, je vous dirai si ça marche ou si ça marche pas. Et toi, Fred ?
Ben moi aussi, hein, pas de cours maintenant, donc ça va être des choses que je vais essayer de faire. Je vais essayer en fait d'ouvrir un atelier de débat à partir d'un livre recommandé par Alice sur Français langue étonnante il y a très peu de temps de ça, hein, qui s'appelle donc Pour ou contre l'actualité en débat par Sophie Lamoureux. Aux éditions Gallimard Jeunesse, je vous donne les références, hein, c'est pas pour faire de la pub, comme je suis en France, j'ai profité pour l'acheter. C'est assez coloré, il y a beaucoup de thèmes d'actualité, du moment, on est sur différentes rubriques, hein. On parle aussi bien de choses au niveau de l'éthique, donc au niveau de la santé ou de la consommation des aliments, aussi au niveau économie, environnement, les sujets classiques. C'est toujours des... Je crois qu'une fois, non. Majoritairement, je vais dire, ce sont des doubles pages, voire des pages uniques, avec à chaque fois des arguments pour et contre sur certains points. Et je pense que ça peut être un très très bon support, en tout cas, pour un cours de débat. Et donc je vais essayer d'adapter un petit peu le livre, qui là n'est pas du tout agencé pour être utilisé en cours, hein. Mais il y a suffisamment de contenu pour après pouvoir se concentrer plus sur la manière dont tout cela va être exploité en classe, et il me tarde de l'utiliser, et j'espère pouvoir vous en reparler à la prochaine émission.
Bah ouais, on espère aussi, ouais.
Comme vos projets aussi, d'ailleurs.
Et ben voilà, c'est terminé pour ce premier numéro des Agités de la Classe. Pascaline, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Ben, on peut me retrouver chaque vendredi dans Agitox et puis à la fin du mois d'avril dans les carnets d'Agitox qui seront consacrés. Ben, c'est une surprise.
Et toi, Fred, on peut te retrouver ?
On peut me retrouver tous les vendredis dans Agitox, normalement. Non, sinon, sur Twitter, c'est pour l'instant toujours moi qui suis derrière le compte Agito de Twitter. On mettra le lien, j'imagine, là aussi, dans les informations et les ressources dont on a parlé dans ce numéro. Et toi, Seb, on te retrouve où ?
Eh ben, pareil, sur Agitox tous les vendredis, avec une participation un peu moindre quand même, mais de temps en temps, vous pouvez trouver une entrée. Et puis sinon, ben, sur Twitter, sur Facebook, alors c'est toujours les comptes des Arts du Fleu, mais qui restent actifs. Donc vous pourrez me retrouver là, et bien sûr, sur le site Agito, sans souci. Voilà, vous pouvez donc retrouver, ben, effectivement, comme Fred l'a dit, tous les liens dans les notes de l'émission et puis sur le blog, sur le site Agito. Vous pouvez échanger avec nous sur les réseaux sociaux. On vous dit donc à bientôt et on se retrouve dans de prochaines émissions. Très vite.
À bientôt tout le monde.